Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis sur l'antenne de Graphite, après VibraSOS, vous écoutez Biotine. Tous les samedis, donc, entre 12h et 13h, nous parlons de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission qui est aussi proposée en différé, en rediffusion, pardon, le mardi matin à 10h. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé. Vous avez tous les podcasts, bien sûr, sur le site graphite.net et puis, bien sûr, tous les réseaux sociaux qui vous permettent de nous suivre, bien sûr, et de suivre l'actualité de Graphite. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes le 2 mai et c'est la journée mondiale de l'asthme. Voilà, c'est une journée qui est consacrée à la sensibilisation et l'information sur cette maladie. Au niveau de l'éphéméride, le 2 mai 1952, c'est le premier avion de ligne civile à réaction de Havilland Comet qui effectue son premier vol commercial entre Londres et Johannesburg. 1952 quand même. Et en 2018, l'annonce de la première détection d'hélium dans l'atmosphère d'une exoplanète. Alors ça, voilà, si on arrive à détecter de l'hélium sur une exoplanète, on peut se dire qu'on peut détecter d'autres éléments chimiques et donc peut-être après, voilà, il y a beaucoup de peut-être, hein, il y a beaucoup de suppositions, il y a beaucoup de conditionnels, mais bien sûr c'était une annonce assez importante et c'était en 2018. Naissance, le 2 mai 1957, c'est son anniversaire à Dominic Lee-Poulville-Gorry, c'est un astronaute américain, il a fait plusieurs vols, notamment en 1998 sur la navette Discovery, c'était notamment le dernier arrimage de la navette américaine, la station Mir. On avait oublié la station Mir en 1998, et puis il est retourné dans l'espace en 2001, notamment vers cette fois la station spatiale internationale. Donc c'est l'anniversaire de Dominic Gorry, astronaute américain, né en 1957. Ça lui fait donc 60... Oula, je suis en train de calculer. Je me suis lancé dans des calculs. 79 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon anniversaire à lui. Décès le 2 mai 1736. Alors là, on part au 16e siècle, 17e, 18e siècle, je vais y arriver. Oula, je suis perdu dans les chiffres. 18e siècle, bien sûr. C'est le décès d'Albertus Seba, zoologiste, pharmacien hollandais, célèbre pour son cabinet de curiosités. En fait, Albertus Seba, quand il est jeune, il voyage beaucoup aux Pays-Bas et en Allemagne pour apprendre notamment la pharmacie. Il a été pharmacien ensuite. Et en 1696, il s'installe définitivement à Amsterdam. Et les revenus de sa pharmacie, ça lui procure une solide fortune qu'il va consacrer à l'histoire naturelle. Et la situation de la ville, son port, son activité commerciale, lui permettent d'obtenir facilement des spécimens en provenance du Nouveau Monde et de contrées lointaines. Il va s'intéresser aux mammifères, aux oiseaux, aux mollusques, aux insectes, aux serpents, qui est notamment son sujet favori. Et en 1731, il fait réaliser une illustration de chaque spécimen de sa collection pour publier le catalogue de son cabinet qu'il considère comme le plus beau du monde, cabinet de curiosité. Et c'est avec des personnages comme ça aussi qu'on était dans une phase un petit peu de vulgarisation scientifique, de médiation scientifique, l'idée de faire découvrir des choses au grand public avec ce cabinet de curiosité Amsterdam, celui d'Albertus Seba, dont on célèbre donc aujourd'hui le décès. Il est décédé un 2 mai. Alors, au niveau de l'actualité, il y avait la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps d'évoquer ce dernier article de Futura Science que je voulais évoquer, parce que je trouvais c'était assez intéressant de parler de la technologie sous un angle assez original, qui est celui de la guerre. Alors, effectivement, ce n'est pas nécessairement plaisant, mais d'un point de vue technologique, ce qu'il s'est passé est assez fascinant et nous partons en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit, pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote, des systèmes terrestres et des drones. Les occupants se sont rendus et l'opération a été menée sans infanterie et sans perte de notre côté. Et donc le président ukrainien, il était entouré de tout un arsenal de missiles, de drones, de véhicules robotisés qui avaient été conçus et produits en Ukraine. Il a donc prononcé cette phrase. Son discours en fait visait à célébrer la journée des fabricants d'armes qui développent et construisent les drones, les robots et les missiles. C'est donc une journée des industries d'armement ukrainiennes qui n'aurait sans doute jamais existé sans l'invasion russe il y a 4 ans, 2022. Et donc 4 ans après le début des hostilités, sur les champs de bataille, les robots et les drones remplacent les humains. L'opération qui est donc décrite par le président ukrainien n'est pas nécessairement sourcée, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les preuves, on va dire entre guillemets. Donc on ne sait pas nécessairement si le gain de territoire est d'envergure. Il n'empêche que cette information semble crédible. Il y a plusieurs vidéos qui ont circulé et qui montrent des soldats russes cherchant à se rendre sous la menace de drones. Alors ce qui est désormais acquis, c'est que l'artillerie traditionnelle a été remplacée par des frappes ciblées dévastatrices de drones. Et ce n'est pas tout. Au fil des mois, l'armée ukrainienne a pu tester et éprouver tout un panel de robots et de drones inédits. C'est ça qui est assez intéressant. Au seul parmi eux, on peut nommer la mine mobile anti-char Rattel ou encore le robot chenillé polyvalent qui s'appelle Termite. Il sert à l'évacuation des blessés, il sert au minage, à la logistique et peut même être armé pour réaliser du soutien de feu. Les forces militaires peuvent également compter sur un petit blindé dopé à l'intelligence artificielle qui va combiner reconnaissance et capacité de frappe avec une tourelle dotée d'une mitrailleuse robotisée. C'est quand même assez, enfin, d'un point de vue technologique, c'est quand même assez inédit, assez fascinant. Plus imposant, c'est le Protector, qui est un véritable véhicule robotisé de grande taille qui peut transporter d'autres drones au combat. Il peut transporter aussi de la logistique. Il peut également servir à évacuer des blessés. Ces engins auraient déjà réalisé plus de 22 000 missions sur le front en 3 mois. Toujours lors de son discours, le président ukrainien estime donc que ces innovations ont permis de sauver plus de 20 000 vies en prenant la place de soldats dans les zones les plus dangereuses. Durant la prise de la position russe qui était donc évoquée, ce qui est exceptionnel, c'est qu'aucun combattant n'a été déployé sur la zone de combat. L'effet majeur a été effectué uniquement grâce à ces robots qui étaient appuyés par des drones. C'est une première dans la guerre, même si par la suite, conserver le contrôle d'une ancienne position ennemie va imposer de la faire tenir par des soldats, des vrais en chair et en os, par la suite. Mais la prise de ce territoire est faite par des robots et des drones. C'est ça qui est un petit peu inédit dans cet aspect. D'autres histoires récentes autour des robots et des drones montrent encore que ces machines sont devenues la norme sur les champs de bataille. Il y a quelques semaines, il y a des drones qui sont parvenus à libérer et à secourir 2 soldats ukrainiens qui étaient faits prisonniers par les troupes russes. Les drones ont encerclé l'escorte ennemie en menaçant de la frapper. Les prisonniers en ont profité pour s'échapper. Il y a des vidéos également qui avaient été montré. Et plus généralement, le commandant des forces armées ukrainiennes, qui s'appelle Oleksandr Skirsky, il a souligné qu'en mars, ces drones, ces robots ont réalisé 50% de missions de plus que le mois précédent. Autrement dit, leur emploi s'accélère et ils sont disponibles en masse. Donc voilà, pour la première fois dans l'histoire, des drones prennent seuls des positions ennemies. Ça s'est passé en Ukraine il y a quelques jours et il était important. Voilà, je voulais évoquer ça lors de l'émission la semaine dernière. Je n'avais pas eu le temps, parce que l'actualité était assez riche également la semaine dernière. Et voilà, je souhaitais l'évoquer aujourd'hui. Autre chose, et là c'est toujours l'actualité, il y a un programme participatif qui a été lancé il y a quelques jours, le 13 avril dernier. Il s'appelle Bugs Matter. Il repose sur une observation bien connue des automobilistes, ce sont les insectes qui semblent de plus en plus rares sur les carrosseries après les trajets. Et donc pour vérifier cette impression à grande échelle, les chercheurs demandent aux volontaires de nettoyer leurs plaques avant de partir, puis de photographier les impacts à l'arrivée via l'application mobile Bugs Matter. L'outil enregistre aussi de nombreuses informations utiles, la date, les horaires, la météo, le type de paysages qui sont traversés également. Autant de données qui sont précieuses pour mieux comprendre l'évolution des populations d'insectes sur l'ensemble du territoire. Les scientifiques espèrent mobiliser des milliers de participants afin d'obtenir un maillage très fin de la France grâce à la densité du réseau routier. Une opération similaire a été menée au Royaume-Uni. Ça a déjà permis de confirmer un recul massif des insectes. Il est vrai que quand on circule en voiture, on a l'impression qu'il y a un peu moins d'insectes sur les pare-brises, par exemple. La disparition en fait, des insectes menace bien plus que la biodiversité parce qu'ils constituent une ressource essentielle pour de nombreux oiseaux. Et ça assure aussi la pollinisation d'environ 3/4 des plantes cultivées. Donc déjà fragilisés par les pesticides, l'artificialisation des sols, eh bien, ces insectes jouent pourtant un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes et dans notre alimentation. Donc si vous souhaitez participer à ce projet, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle qui invite donc les Français à transformer leur plaque d'immatriculation en outil scientifique pour suivre le recul inquiétant des insectes. Le programme s'appelle donc Bugs Matter, B-U-G-S. M-A-T-E-R, Bugs Matter, si vous souhaitez participer à cette expérience. Effectivement, ça peut être assez, assez intéressant pour participer. Voilà, c'est de la science participative pardon. Et c'est très bien que l'on puisse permettre à la science d'avancer. Et là, l'idée, c'est d'avoir tout simplement des informations en grande échelle. Donc, plus il y aura de personnes qui vont participer, plus ce projet de recherche aura une assise solide pour la suite de ses travaux. Des petites brèves qu'on peut trouver. Alors, je vous incite à feuilleter régulièrement les revues de vulgarisation scientifique. Il y a Science et Vie, il y a Science et Avenir. Il y a des petites brèves qui sont assez intéressantes. Cette petite brève de Science et Vie d'avril que je trouvais intéressante, qui concernait les plantes qui chauffent. Parce que comment attirer justement ces fameux insectes pollinisateurs quand on est une plante sans fleurs? Eh bien, en produisant un peu de chaleur. Il y a des chercheurs américains et des chercheurs belges qui viennent de décortiquer ce phénomène chez des cicadales. Ce sont des végétaux sans fleurs. Ça ressemble un peu à des palmiers. Ils ont fait cela à l'aide d'expériences au laboratoire et des observations de terrain. Et donc, pour organes reproducteurs, ces plantes disposent de cônes qui peuvent chauffer jusqu'à 10 degrés au-dessus de la température ambiante grâce à une suractivité des mitochondries. Les mitochondries, c'est dans les cellules, des cellules des plantes, mais aussi dans nos cellules à nous. Les mitochondries, ça ressemble un petit peu comme une usine énergétique. C'est elle qui va fournir l'énergie à nos cellules. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas des plantes, eh bien, ces mitochondries fournissent de l'énergie, donc ici de la chaleur, ce qui permet d'avoir ces cônes qui peuvent chauffer jusqu'à 10 degrés au-dessus de la température ambiante, ce qui est quand même pas négligeable, c'est déjà une valeur assez importante. Mais tous ne chauffent pas en même temps, hein. Ce sont les cônes mâles qui sont les premiers, ils vont se craqueler en arrivant à maturité, et donc il y a des petits coléoptères qui sont sensibles à la chaleur qui vont venir s'y nicher. Puis le pic de température va diminuer et il va y avoir une espèce de d'émanation de substances toxiques qui va pousser les insectes chargés de pollen à sortir, et ils vont se diriger naturellement vers les cônes femelles qui se mettent alors à chauffer pour pouvoir y passer la nuit. C'est quand même assez malin finalement. Et c'est Marjorie Liénard de l'université de Liège, donc en Belgique, qui est l'une des responsables de cette étude qui explique cela. La fécondation de la fleur peut donc commencer. Alors à noter, il y a des fossiles de l'ordre justement de ces cicadales qui sont des fossiles vieux de 250 millions d'années qui semblent assez proches des plantes. Les rayonnements thermiques pourraient ainsi être un signal ancestral pour attirer les insectes lors de la pollinisation. Et donc cela bien antérieure aux couleurs qui avaient été développées par la suite par les plantes à fleurs. C'était les couleurs qui attiraient les insectes, mais avant, quand il n'y avait pas ces couleurs grâce aux fleurs, il y avait ce système de chauffe, entre guillemets. On chauffait la partie mâle et on chauffait ensuite la partie femelle, et donc l'insecte pouvait assurer son rôle de pollinisateur. Donc voilà, deux informations qui sont liées, l'un qui concerne justement ce phénomène de pollinisation par ces insectes, et l'autre qui se dit que peut-être que ces fameux insectes pollinisateurs, on en aurait de moins en moins. Et pour en avoir la certitude, il y a cette étude à grande échelle qui vous est proposée. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine vous permet de vous informer de l'actualité scientifique. Et puis ça nous permet aussi d'écouter un peu de musique.
Shoot the rabbit.
Rabbit, c'était Hello Mary sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Et on va parler de Venise. Ah, ben ça fait rêver, hein, Venise. Hein, c'est l'une des villes les plus admirées du monde, quand même, Venise. Moi, je ne suis jamais allé à Venise, mais un jour, j'irai à Venise. On est quand même tous obligés un jour d'aller à Venise. C'est pas possible. C'est tellement, ça a l'air d'être tellement magnifique. Mais c'est l'une des villes les plus impactées par le dérèglement climatique. Chaque année, la mer monte un peu plus, les sols s'affaissent davantage et les inondations deviennent plus fréquentes. Alors depuis 2022, il y a un système de barrières mobiles qui verrouille les trois entrées de la lagune en cas de crue ou de tempête. Mais ce dispositif risque d'être insuffisant sur la durée. Et donc il y a eu une étude qui est parue récemment dans la grande revue Nature qui montre les travaux d'une équipe de chercheurs européens et britanniques. Ces chercheurs proposent 4 stratégies d'adaptation à long terme face à la montée des eaux et futurations. Nous décrit ces 4 stratégies. Alors le premier, c'est la lagune ouverte. Hein. La première possibilité, le fait que la lagune reste ouverte, c'est-à-dire telle qu'elle est actuellement et le système de barrières mobiles est renforcé pour réduire les risques d'inondation. Alors, sur le papier, cette stratégie pourra préserver l'écosystème de la lagune, le patrimoine monumental, le patrimoine culturel, les activités économiques, le bien-être des résidents. Le problème, c'est qu'il faudra augmenter la fréquence et la durée des fermetures à mesure que les niveaux de la mer augmentera. Et d'après les chercheurs, cela aura pour effet de rendre peu à peu moins efficace la protection apportée aux monuments, tout en limitant les opérations portuaires et en dégradant les écosystèmes de la lagune. Alors, deuxième solution, ce sont les digues annulaires. L'idée, c'est d'entourer Venise de ces digues annulaires pour isoler le centre historique du reste de la lagune. La ville serait protégée de la hausse du niveau de la mer, mais son lien physique et symbolique avec l'eau serait profondément modifié parce que le paysage changerait et l'attrait pour Venise pourrait être affecté. Par ailleurs, les transports publics et commerciaux, l'emplacement du port et son organisation devraient être entièrement repensés. Troisième option, la lagune fermée, c'est-à-dire que la lagune deviendrait un lac côtier protégé en permanence par des barrages surélevés. Alors cette stratégie préservera efficacement le patrimoine monumental de la ville, les zones résidentielles, les activités touristiques, mais en sacrifiant les paysages et l'écosystème naturel de la lagune. Venise perdrait ainsi le contexte environnemental qui l'a historiquement façonné. Enfin, quatrième solution, quatrième hypothèse la plus extrême, c'est le repli stratégique. En cas de submersion totale de la ville, et comme cela est d'ores et déjà envisagé ailleurs dans le monde, eh bien les monuments les plus emblématiques pourraient être démontés puis réassemblés sur de nouveaux sites qui seraient plus élevés. Et cette opération de relocalisation planifiée entraînera la perte du tissu urbain historique, la perte des modes de vie traditionnels et de la plupart, bien sûr, des activités économiques. Les chercheurs précisent que ce repli stratégique est probable avant la fin du 24e siècle si les émissions de gaz à effet de serre restent très élevées. Oh, le 24e siècle, on n'en est pas encore là. En tout cas, ce sont des décisions difficiles à prendre parce qu'en réalité, il n'y a aucune de ces solutions qui n'apporte de réponse parfaite. Sauver les monuments ne permettra pas forcément de sauver la lagune. Préserver l'activité économique ne va pas garantir le maintien du cadre de vie. Donc en fait, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Alors pour Venise, c'est donc l'heure des décisions difficiles à prendre, d'autant qu'il faut agir vite, ce qui nécessite de faire des choix rapidement. Et pour toutes les stratégies proposées, les grands travaux envisagés exigeront des décennies de préparation. Une chose est malheureusement certaine, l'abandon partiel, voire même total de Venise pourrait devenir une réalité dans les prochains siècles si l'élévation du niveau des mers est trop importante, bien sûr. Donc voilà, profitez d'aller à Venise avant que ça change. Mais et puis voilà, faisons du surtourisme à Venise avant que Venise ne soit plus Venise. Mais voilà, bon, on est sur des perspectives à long terme et des décisions qui risquent d'être prises assez rapidement, bien sûr. Autre sujet, on part en Chine, hein, l'histoire de la Chine antique rengorge de mystères, mais peu rivalise avec celui qui entoure la sépulture de Qin Shi Huang, artisan de l'unification de l'Empire du Milieu au IIIe siècle avant notre ère, ce monarque ambitieux a laissé derrière lui un héritage monumental. Son mausolée, qui est situé près de Xiang, dans la province de Shaanxi, alors excusez-moi pour la prononciation, mais alors le chinois et moi, je n'y arrive pas du tout, ça fait deux. Son mausolée continue d'attiser quand même la curiosité des chercheurs et du grand public. Et donc, on en sait un petit peu plus sur les secrets de la tombe un peu énigmatique de Qin Shi Huang, qui a marqué l'histoire chinoise de son empreinte indélébile. Il était couronné roi en 247 avant Jésus-Christ. Il entreprit la conquête des six autres royaumes rivaux pour fonder le premier empire unifié de Chine. Son règne, il a été caractérisé par des réalisations titanesques, notamment la construction d'un précurseur de la Grande Muraille, le creusement d'un canal, le canal Linkou, qui est long de 32 km, et l'édification de son propre mausolée, qui était un chantier pharaonique. Ce mausolée, justement, ce projet, va mobiliser pas moins de 700 000 ouvriers pendant 38 ans. L'ampleur de ces travaux témoigne de la puissance et de l'ambition démesurée du souverain. La partie la plus célèbre du mausolée est sans contester l'armée de terre cuite. 8000 soldats en argile qui ont été découverts récemment en 1974. Ils étaient chargés de protéger l'empereur dans l'au-delà. Mais la chambre funéraire elle-même demeure inviolée depuis plus de deux millénaires. L'historien Sima Qian évoque des dispositifs de défense redoutables, à savoir des arbalètes automatiques conçues pour tirer sur les intrus et des rivières de mercure simulant les cours d'eau chinois. Ces récits, qui sont souvent considérés comme légendaires, ont trouvé un écho scientifique surprenant. Il y a une étude qui avait été publié dans la revue Nature, qui avait révélé des taux anormalement élevés de mercure autour du site, ce qui corrobore un petit peu l'hypothèse de cet historien Sima Qian. La prudence guide les archéologues dans leur approche de ce trésor historique. L'exemple des guerriers de terre cuite dont les couleurs vives se sont estompées au contact de l'air, illustre un petit peu les risques liés à une excavation trop hâtive. Le dilemme est de taille, parce qu'il faut préserver intact ce patrimoine unique. Il faut aussi percer un peu les mystères de la tombe impériale et puis développer des techniques d'exploration non invasives. Les chercheurs estiment que le mausolée pourrait renfermer 100 tonnes ou plus de mercure, qui est un métal hautement toxique. Cette découverte soulève des questions captivantes sur les pratiques funéraires de la Chine antique et aussi ça donne des informations sur les croyances de l'époque. Et de façon ironique, la quête d'immortalité de cet empereur Qin Shi Huang pourrait avoir précipité sa fin. C'est-à-dire qu'il était obsédé par l'idée de vaincre la mort. Et donc, l'empereur aurait régulièrement consommé des élixirs à base de mercure parce qu'il était persuadé de leur vertu magique. Et cette pratique dangereuse, qui était inspirée par des mythes et des conseils de magiciens, ça a probablement contribué à son décès prématuré à l'âge de 49 ans. Bien que son empire se soit effondré peu après sa disparition, eh bien le legs de Qin Shi Huang perdure. Sa tombe mystérieuse continue de captiver l'imagination parce que ça incarne un peu un paradoxe d'un souverain qui, dans sa quête d'éternité, a créé un monument à la fois éphémère et totalement immortel. Alors, voilà, on veut essayer d'en savoir un plus sur cette tombe mystérieuse et savoir qu'est-ce qu'elle cache réellement. Mais on a un peu des craintes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Effectivement, si on trouve du mercure, ça risque d'être assez compliqué. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner, regarder un petit peu les images et les vidéos qui existent donc sur ce mausolée de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine. Ça fascine et ça intrigue, bien sûr. Difficile d'en parler comme ça par le média de la radio, parce qu'on a envie de voir des images, mais vous pouvez regarder sur certains sites internet et vous trouverez, bien sûr, des images, des illustrations totalement magnifiques de ce mausolée. On va, juste avant d'écouter un autre titre, évoquer ce dernier article que je trouvais assez intéressant concernant des microbes qui sont cachés dans le sol gelé de l'Arctique qui pourraient accélérer le réchauffement climatique. En fait, dans le sol gelé en permanence dans certaines régions du monde. C'est ce qu'on appelle le pergélisol, en fait. Hein. C'est le sol qui est toujours, qui est constamment gelé. Et bien, il y a à l'intérieur une quantité colossale de carbone. Et avec le réchauffement climatique, ce sol pourrait dégeler et tous les microbes qu'il contient pourraient se remettre à respirer. Ils vont donc transférer une partie du carbone vers notre atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone et de méthane. Et donc l'idée, c'est que ça pourrait encore empirer le réchauffement climatique anthropique. C'est quelque chose d'assez sérieux parce que si ça se fait, ça se fait à grande échelle et c'est un impact assez colossal. Le processus, il est connu et il est redouté par la communauté scientifique. Les premières estimations évoquent des émissions d'ici 2100, c'est-à-dire qu'à la fin du siècle, on considère qu'on va commencer à avoir les premières émissions de dioxyde de carbone par ce nouveau phénomène, et ça pourrait être comparable à celle des grands pays industrialisés quand on parle en termes de valeur, en termes de quantité de gaz qui serait produite. Et en fait, ces informations, elles ont été évoquées avant les recherches qui ont été publiées dans la revue Nature Microbiology. Pardon, il y a des chercheurs à l'université du Colorado aux États-Unis qui avancent désormais une autre information. Ils disent en effet que les microbes qui sont donc dans ce sol gelé, le pergélisol, pourraient aussi libérer dans l'air une part d'un carbone que les scientifiques pensaient intouchable. Il y a ces réserves de carbone qui sont comme autant de beignets de pizza, de chips, et nous étions à l'aise avec l'idée que les microbes allaient utiliser ces substances. C'est ce qu'explique Bridget McGivern, qui est l'auteur principal de ces travaux. Mais il y a aussi d'autres trucs, de la nourriture épicée, des polyphénols en réalité. Or, nous ne pensions pas que les organismes aimaient la nourriture épicée, mais ce que notre travail montre, c'est qu'en réalité, il y a des organismes qui la mangent. Les polyphénols ne vont donc pas rester sous forme de carbone dans le sol, mais peuvent être aussi décomposés. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas anticipé en clair. Alors, pour quantifier précisément les gaz à effet de serre supplémentaires qui pourraient ainsi émaner de ce pergélisol qui serait en train de dégeler. Et il y a des travaux plus précis qui seront encore nécessaires. Donc il va y avoir des recherches qui vont être menées pour avoir une estimation précise de ce qui nous attend. En clair, en attendant, la découverte sonne aussi comme une très mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient sur le verrouillage enzymatique pour piéger le carbone dans ce sol gelé. L'idée, c'était en effet d'ajouter des polyphénols dans le sol qui est en train de se dégeler pour, en quelque sorte, désactiver les microbes. Eh bien, il semblerait au contraire qu'un ajout de polyphénol ne ferait finalement qu'empirer le problème. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais ça reste assez compliqué, assez pessimiste, avec ces microbes qui s'y cachent dans ce sol gelé et qui libéreraient alors des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère assez importantes. Affaire à suivre, bien évidemment, le réchauffement climatique. Je pense qu'on en parle toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, il y a toujours une information qui vient confirmer et qui ne vient pas nécessairement nous donner des bonnes nouvelles, en tout cas nous plonger dans un optimisme béat. C'est assez inquiétant, je trouve. Allez, un peu de musique, ça va nous faire du bien. Hello. Hello. Radio Tower. Radio Tower, c'était Firewild sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Ah, on savait qu'elle était résistante à pas mal de choses, hein. Elle était résistante aux rayonnements ionisants, aux ultraviolets, à la dessiccation. La dessiccation, c'est la sécheresse, en clair. Elle était résistante à la famine. Elle était résistante au froid extrême. Elle était résistante au vide de l'espace. Eh bien, voilà que celle que l'on surnomme Conan la bactérie, c'est Delconocus radiodurans, je vais y arriver. Cette bactérie, elle peut survivre aussi à un impact d'astéroïdes. Pour le prouver, il y a des chercheurs de l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui ont placé des colonies de ce fascinant organisme entre deux plaques métalliques soumises à de puissantes ondes de choc avec une pression de plus de 1 gigapascal. 1 gigapascal, c'est une pression qui est énorme, 10 fois celle qui est exercée au fond de la fosse des Mariannes. Hein, c'est le poids le plus bas de l'océan terrestre. Eh bien, on s'est rendu compte que 95% des microbes demeuraient indemnes. Mais ils sont coriaces quand même. Le taux de survie atteignait même 60% quand on est arrivé à 2 gigapascal, ce qui est une pression énorme, énorme. Eh bien, on avait encore plus de la moitié qui arrivait à survivre. C'est de quoi relancer l'hypothèse de ce qu'on appelle la panspermie. Si des bactéries de ce type avaient existé sur Mars il y a 4 milliards d'années, elles auraient pu résister à la chute d'un astéroïde, être éjectées dans l'espace avant de tomber sur notre planète pour l'ensemencer. Elle est fascinante, cette Deinococcus radiodurans, hein, cette Conan la bactérie. Des expériences montrent qu'elle peut survivre à des pressions comparables à celles d'un impact d'astéroïde. C'est assez fascinant et c'est ce qu'on peut lire dans Science et Avenir du mois de mai. Il y a également dans Science et Avenir cette petite brève qui concerne ce test qui est une étape indispensable d'un convoi assez exceptionnel qui a circulé du côté du CERN. Le CERN, c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. C'était il y a quelques semaines, il y a un camion qui transportait 92 antiprotons dans ses flancs. C'est une première, loin d'aller de soi, parce que l'antiproton, c'est donc de l'antimatière qui s'annihile instantanément au contact de la matière. Il fallait donc l'isoler parfaitement durant tout le trajet. On est sur un film, ça c'est pas possible. Il y a un film tiré d'un bouquin de Dan Brown, je crois, qui parle de ça. Et là, voilà, il fallait absolument qu'il y ait une isolation parfaite. Et pour cela, les chercheurs ont utilisé un dispositif cryogénique capable de ralentir les antiprotons en les refroidissant à moins 268 degrés Celsius. Alors, les refroidir, ok, et puis il fallait les piéger à l'aide de champs électriques et magnétiques sans contact avec la matière. Le dispositif, il pèse une tonne et il a été placé avec soin, bien sûr, dans la remorque du camion pour une simple balade sur le campus du CERN. Hein, évidemment, il n'a pas traversé toute la France avec l'autoroute A7. Non, ce n'est pas le but. C'était un petit trajet. Mais un trajet quand même d'antimatière. Par la suite, l'idée, c'était en fait de tester la méthode. Hein, parce que par la suite, les antiprotons seront expédiés vers des laboratoires plus lointains afin d'y effectuer des mesures de précision. Celles-ci sont en effet difficiles à réaliser près de l'usine antimatière qui sont perturbées par les champs magnétiques nécessaires à sa production. Mais voilà, on a donc assisté au premier transport d'antimatière. Rien que cette phrase, le premier transport d'antimatière, on a transporté ce qui n'était pas de la matière, de l'antimatière. Ça fait réfléchir un peu, c'est ce que vous pouvez lire dans Science et Avenir. Et puis il y a cette petite brève qui nous vient de l'université de Tsinghua en Chine. Une équipe donc chinoise présente en vidéo un robot humanoïde capable d'échanger des balles avec un humain. Il apprend donc à jouer au tennis grâce à un apprentissage inédit. La machine qui est entraînée à partir de fragments de mouvements humains recomposé par une intelligence artificielle, eh bien, il parvient à coordonner les déplacements et les frappes avec une dextérité qui illustre les progrès de la robotique. Donc un humanoïde, robot humanoïde qui apprend à jouer au tennis. Vous pouvez voir les vidéos totalement fascinantes sur Internet. Je ne sais pas, je trouve que c'est assez particulier, effectivement, ce qui se passe en science. C'est des choses qui sont fascinantes d'un point de vue technologique, c'est toujours fascinant. Après, par la suite, c'est d'autres sujets qu'il faudra à un moment que l'on prenne collectivement tous ensemble pour pouvoir les traiter. D'autres articles que l'on trouve cette fois sur le site Futura Science, notamment l'utilisation chaque jour par des millions de personnes de ces lotions, des lingettes, des gels, des sprays antibactériens. S'il semble inoffensif, eh bien une équipe internationale tire pourtant la sonnette d'alarme parce que ces produits contribueraient en réalité à un problème mondial majeur qui est la résistance aux antimicrobiens. Les antimicrobiens, comme les antibiotiques, les antiviraux, les antiparasitaires, sont des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections chez les êtres humains, les animaux et les végétaux. Et au fil du temps, eh bien, ces bactéries, ces virus peuvent devenir résistants aux antimicrobiens. Ils ne réagissent plus aux médicaments, ce qui rend plus difficile le traitement des infections et ça augmente le risque de propagation des maladies et aussi, bien sûr, des décès. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe-t-elle la résistance aux antimicrobiens comme l'une des 10 plus grandes menaces pour la santé publique mondiale. C'est quand même pas anodin. Jusqu'à présent, la plupart des efforts pour lutter contre cette résistance se sont concentrés sur la réduction de l'usage excessif d'antibiotiques en médecine et en agriculture. Mais de nouvelles recherches menées par des scientifiques d'Amérique du Nord, du Sud et de Suisse montrent que nos produits ménagers peuvent également jouer un rôle crucial dans ce phénomène. Les chercheurs dont les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Environmental Science and Technology, ces chercheurs mettent en lumière que certains agents chimiques, comme les composés d'ammonium quaternel, enfin bref, c'est des choses qu'on utilise largement dans des produits courants, les savons antibactériens, les lingettes désinfectantes, les sprays, les détergents, les textiles, les plastiques, les produits de soins aussi personnels. Et bien tout ça, leur utilisation a explosé pendant la pandémie de Covid-19 et ça reste encore très élevé aujourd'hui. Or, ces substances qui n'apportent pas de bénéfices supplémentaires lorsqu'on se lave simplement les mains avec de l'eau et du savon, eh bien, ces substances entraînent en réalité la résistance bactérienne. Il y a des études en laboratoire et dans la vie réelle qui montrent que ces produits chimiques rejetés dans l'environnement permettent des modifications génétiques durables chez les bactéries, ce qui va leur permettre de survivre. Elles s'adaptent, elles s'arrangent et elles résistent. À terme, ces modifications peuvent permettre aux souches résistantes de devenir dominantes. Il en résulte, bien sûr, la propagation de gènes de résistance aux antibiotiques qui menacent l'efficacité de ces derniers au moment où nous en avons le plus besoin. Alors que les autorités sanitaires mondiales, notamment l'OMS, recommandent déjà de privilégier le lavage des mains avec de l'eau et du savon classique, plutôt que des savons antibactériens, eh bien, les auteurs de cette étude appellent l'OMS et ses partenaires à intégrer la question des biocides dans le prochain plan mondial d'action contre la résistance aux antimicrobiens. Ils leur réclament de fixer des objectifs précis pour réduire leur usage dans les produits de consommation courante. Voilà, ces produits antibactériens du quotidien qui pourraient nourrir une menace sanitaire mondiale. Effectivement, si on utilise pour rien de l'antibactérien et en grande quantité, eh bien, au bout d'un moment, les bactéries vont s'adapter. C'est l'histoire de l'évolution, ça, c'est aussi simple que ça. Donc il va falloir... Alors il y avait ce slogan qui était finalement assez efficace parce que c'est juste les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh bien, d'une façon générale, les antibactériens, c'est pareil. Du savon, tout simplement, et de l'eau. Et ça fonctionne très très bien. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite.
Souvent la nuit, j'admire les étoiles comme Simba. Le ciel brille de tout là-haut et moi, je suis si bas. J'essaie d'évaluer la distance qui nous sépare, mais la nuit est graduée, si dense que le doute m'égare. J'écoute les voix des archanges, c'est rare quand je m'évade sans ressentir l'envie d'en dire ma franchise sur une page blanche. Affranchi du mal dense, la balle est grandine, de la plus candide des puretés, le tout en rythme. Au cœur de cette ambiance, ma voix s'élance aussi douce que le silence, avec l'élégance d'avoir succombé au charme de cette harmonie, avant que s'élève cette source en quoi nous pourrions vivre, autrement que dans l'agonie, favoriser le métabolisme, abolir la sous-titrage diabolique, n'oublie pas nos rythmes, applaudira vos vis anonymes, trace ma putain de route en carburant, et là tu sens l'essence même de ma folie au paroxysme, c'est pour mes acolytes qui me valorisent, on est ensemble frère, certes ta présence n'est pas anodine, c'est ça notre vie,
Et c'est vrai qu'elle est pas donnée, mais tant qu'on reste riche en valeur, reste la monnaie qui va nous appauvrir. Ils disent que le temps c'est de l'argent, je trouve justement qu'il passe trop vite. Je construis mon lendemain voyant qu'au jour, ça se profile. Et j'en vois beaucoup, la corde au cou, mais t'inquiète qu'on porte nos couilles avant qu'un vautour se les approprie. Ils veulent nous vendre du rêve, on le télécharge, ni Adopi. Comment faire bonne impression en couleur sans être une pâle copie? J'avance à petits pas en évitant la pression. J'arrêterai jamais de me poser la question. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Ouais, je pourrais enfin voler le rêve de l'homme. Ma tête en l'air, les nuages m'environnent. Besoin d'un univers sans discord. M'amuser peut-être là-haut, j'entends ces mots intensément réels. Cadeau quand elle me tend sa main, mon être se jette à l'eau. T'es sûrement tant aimé, si on prend plus le temps d'aimer, c'est mêlé mélodrame de l'âme. Crois-moi, j'en fus tant témoin. Poussiéreuse comme l'éternité, ma fierté doute dès que l'on porte sa pensée. Que la faiblesse d'un homme, ça coule des yeux. Tellement d'effets éphémères au milieu des ténèbres, on se rend compte bien vite qu'il y a plus grand chose qui brille en dessous des yeux. On sait plus quoi inventer, c'est la perte d'idées. Si on le pouvait, on me ferait croire que la liberté s'appelle permis B. Merde, je crois que c'est terminé, je vois toujours pas d'évolution. J'ai 99 problèmes, donc y'a pas 36 solutions. Bye bye. Sayonara, faut que je m'arrache night night. Samora a pris des heures avant de me retirer de la faille. Et puis, de toute façon, c'est pas pour moi, j'ai assez donné bêtement. Puis on joue pas avec le feu quand on est mauvais perdant. J'avance à grands pas en évitant la pression. Et j'arrêterai jamais de me poser la question. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Ouais, je pourrais enfin voler le rêve de l'homme. Ma tête en l'air, les nuages m'environnent. Besoin d'un univers sans discord. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Et si le voyage le valait bien, j'embarque pour un aller simple. Ouais, je pourrais enfin voler le rêve de l'homme. Ma tête en l'air, les nuages m'environnent. Besoin d'un univers sans discord.
Allez simple, c'était Crescendo sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine sur Graphite.
Et on continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Quelques petites informations sur plusieurs sujets. En fait, il n'y a pas nécessairement de fil conducteur, mais on va parler des cachalots. Pas souvent qu'on parle des cachalots sur l'antenne de Graphite. Les cachalots qui communiquent grâce à une série de cliquetis appelés coda, qui sont émises par leurs lèvres phoniques. C'est une espèce de structure qui est située dans les narines et qui est comparable par certains aspects à nos cordes vocales. Et jusqu'ici, les chercheurs analysaient surtout le rythme de ces séquences comme un code morse un peu animal. Mais il y a eu des travaux qui ont été menés par un projet qui s'appelle le projet SETI, qui est consacré à l'étude de leur communication. Et ces travaux avaient déjà mis au jour une autre dimension. Il y avait deux types distincts de clics qui étaient différenciés, c'est-à-dire un petit peu la répartition des fréquences dans le son. Chez l'être humain, ce phénomène permet notamment de distinguer les voyelles et comme nous modifions la forme de la bouche et, ou de la gorge pour produire un A ou un I, eh bien les cachalots semblent ajuster aussi une espèce de structure interne qui se trouve dans leur nez, qu'on appelle le sac aérien distal. Et l'idée, c'est de changer la résonance de leur clic. Et donc, dans cette nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society, eh bien les chercheurs montrent que ces deux types de sons baptisés ha-coda et he-coda ne sont pas utilisés au hasard. C'est-à-dire qu'il y a certains motifs rythmiques qui emploient autant de coda en A qu'en I, tandis que d'autres privilégient largement les premiers. Les coda en A sont généralement plus courts, alors que les coda en I existent en version brève ou longue. Et là encore, bah ça rappelle un peu les langues humaines, où la durée d'une voyelle peut parfois changer le sens d'un mot, comme notamment dans la langue arabe. Et donc pour le linguiste Gasper Begus, qui est linguiste à l'université de Californie à Berkeley, qui est l'auteur principal de cette étude, eh bien les résultats suggèrent en fait un contrôle actif et structuré des sons qui sont donc produits, et donc leur signification exacte reste pour l'instant inconnue, mais une chose semble acquise, les cachalots disposent d'un système vocal bien plus riche qu'on ne le pensait, c'est-à-dire que quelque part, les cachalots produiraient aussi des voyelles. Alors, on n'est pas dans l'idée qu'ils produisent des mots les uns par rapport aux autres, mais ça leur arrive de produire voilà, des voyelles et peut-être des consonnes. En clair, ils ont un langage bien à eux qui leur permet de faire passer des informations en justement changeant la forme de ces clics. C'est cette étude donc, de l'Université de Californie qui est quand même assez fascinante, bien évidemment. Autre information concerne un phénomène climatique méconnu qui pourrait rendre nos maisons totalement invendables d'ici quelques années. Depuis le début des années 2000, l'évolution du réchauffement climatique provoque une alternance de conditions météo extrêmes. C'est-à-dire qu'on va d'un temps qui est ultra sec jusqu'à un temps qui est ultra pluvieux. Cette alternance de sécheresse et des précipitations diluviennes provoque de grands changements dans la teneur en eau des sols. Et les sols argileux se gonflent sous l'effet des pluies, puis vont se rétracter sous l'effet des sécheresses. Et donc les bâtiments se fissurent et deviennent parfois inhabitables. Jusqu'à maintenant, c'est la carte du risque global établie en France en 2019 qui servait de référence pour cette espèce de retrait gonflement des argiles. Eh bien, 7 ans après, cette carte a été actualisée et l'évolution montre une progression très rapide du risque. Désormais, plus de la moitié du territoire hexagonal est concerné par ce phénomène de retrait, de gonflement des argiles. On en est à 55% du territoire, alors qu'avant on était à 48%. Donc ça augmente et il y a des degrés assez divers, c'est-à-dire faibles, moyens et forts également pour ce phénomène-là. En 2019 comme en 2026, le risque le plus fort concerne le sud-ouest, mais c'est sur le quart nord-est et sur les régions centrales que le risque s'est le plus aggravé, d'un niveau souvent moyen à un niveau désormais souvent fort. D'ici 2050, la moitié des habitations de France pourrait être invendable en raison de fissures trop importantes. La nouvelle carte sera annexée aux promesses de vente ou aux actes authentiques de vente des terrains non bâtis constructibles et aux contrats de construction de maisons individuelles conclus à compter du 1er juillet 2026. C'est ce qu'on nous informe, c'est ce qu'on nous annonce donc. Avec voilà, ce phénomène climatique qui pourrait donc rendre notre maison totalement invendable d'ici 2050. 2050, c'est demain en clair. Enfin, quand on est dans l'habitation, on est dans moins d'un quart de siècle. Là, maintenant, c'est quelque chose qui peut être assez dramatique. Donc voilà, un nouveau risque qui était un peu connu. On en avait déjà entendu parler de ces fissures sur les maisons, mais là, on est quand même sur un phénomène qui semble justement semble progresser de plus en plus. Il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, on avait fait une émission spéciale chat. Il y avait plein d'articles de presse scientifique sur les chats, parce qu'il y avait pas mal d'expériences qui ont été menées sur les chats. Et bien, j'en ai retrouvé encore, ça n'arrête pas au niveau des chats, et notamment les chats et la météo, qui forment un duo que l'imaginaire populaire lit depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on prête aux chats la faculté de prédire la pluie, le vent ou le beau temps, rien qu'à observer ses comportements. Mais que valent vraiment ses croyances face aux données scientifiques actuelles? Eh bien, il y a des études récentes qui éclairent la question sous un angle biologique sans pour autant trancher définitivement quand même. Alors, un tour d'horizon de ce que l'on sait vraiment, c'est ce que propose Futura Science. Avant de parler de prédictions météo, il faut comprendre ce que perçoit réellement un chat, en fait. Ses capacités sensorielles dépassent largement les nôtres sur plusieurs points décisifs. Alors, il y a 3 principaux atouts biologiques du chat face aux variations atmosphériques. Déjà, la sensibilité à la pression atmosphérique. Comme les humains, les chats détectent les variations barométriques, mais le seuil de détection serait plus fin chez eux, ce qui leur permettrait de réagir avant que le changement ne soit perceptible pour nous. Il y a aussi l'ouïe haute fréquence. Les chats entendent des fréquences bien au-delà du spectre humain. Ils peuvent capter le tonnerre lointain ou le bruissement caractéristique d'une tempête qui approche bien avant qu'elle n'arrive. Et puis l'odorat. L'odorat est le pétrichore. Le pétrichore, ce terme, ça désigne l'odeur de la pluie sur le sol chaud. Vous savez, cette odeur un petit peu de... quand il y a la pluie, il y a une odeur particulière, ça s'appelle le pétrichor. Eh bien, les chats qui sont dotés d'un odorat extrêmement développé, ils perçoivent ce signal olfactif bien avant nous. Et donc, à ces capacités s'ajoute aussi leur fourrure qui est sensible à l'humidité ambiante. Elle fonctionne un peu comme les cheveux humains, dont la texture change selon le taux d'hygrométrie. Donc, un chat pourrait ainsi ressentir une hausse de l'humidité avant même qu'elle soit mesurée par un instrument classique. Ces mécanismes biologiques sont réels. Ils n'impliquent pas une capacité de prévision à proprement parler, mais ils expliquent pourquoi un chat réagit parfois avant qu'il ne pleuve. Un article qui avait été publié il y a quelques années, c'était en 92, dans la revue Waverwise, notait déjà que certains comportements des chats, comme manger de l'herbe, semblaient précéder la pluie. Depuis, la science a un petit peu affiné ses observations. Une étude qui a été parue l'année dernière dans la revue Animals, qui a analysé l'influence des saisons et des conditions météorologiques sur les chats domestiques, et les résultats sont nets. Une hausse des températures, de l'humidité ou de l'indice de vent entraîne davantage de temps passé allongé ou à manger et moins de temps pour le toilettage et l'usage de la litière. Okay. Une autre recherche a montré que les chats griffaient moins et se toilettaient moins lors de fortes précipitations. Alors, ces comportements, ils vont pas prédire la météo, ils y répondent, hein, bien sûr. En 2022, il y a une étude italienne qui a interrogé des propriétaires de chats et de chiens, et résultat, les animaux jouaient davantage par temps froid et dormaient plus lors de fortes chaleurs ou de baisses brutales de température. Il y a plusieurs propriétaires qui ont également rapporté une anxiété accrue chez leurs chats lors d'orages violents, qui est un phénomène cohérent avec leur sensibilité aux infractions et aux variations de pression. Alors, aucune de ces études n'établit formellement que les chats prévoient le temps. Elle confirme en revanche que les chats sont bel et bien influencés par les conditions atmosphériques, parfois avant que celles-ci ne soient pleinement installées. C'est peut-être ça, cette idée de prédiction. Le chat n'est donc pas un baromètre, mais ses réactions en disent long sur ce que nos propres sens ne savent plus ou pas encore vraiment percevoir. Donc, voilà, vous avez peut-être des chats qui permettent de prédire la météo. Ah, mais c'est ça. Confions-les à la météo nationale, ça pourrait être utile. C'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. C'est un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. Et tant qu'elle se termine, hein, je commence à bafouiller, c'est que je suis fatigué. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions pendant toute cette semaine sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt, merci, au revoir.